Radioscopie. Radioscopie.
Edgar Faure.
Jacques Chancel. Monsieur le Président, non, je m'adresse plutôt à Edgar Faure. Edgar Faure, est-il difficile de ne plus aller dans la vie accompagné comme vous l'étiez?
Oui, bien sûr.
La mort ne rend-elle pas dérisoire tout ce qui paraît motiver la vie? Je veux dire par là le travail, les honneurs, l'ambition, le pouvoir.
Oui, bien sûr.
Vous êtes président de l'Assemblée nationale. Vous êtes en fait le grand chef des notables. Est-ce suffisant? Est-ce votre avenir?
Un homme ne sait jamais ce que peut être son avenir. Il doit s'installer dans le présent. D'ailleurs, cela va très vite. J'exerce cette fonction qui m'intéresse beaucoup et qui me permet en même temps de prendre certaines positions sur la politique ou de me livrer à des travaux personnels.
Avez-vous réfléchi sur le sens de votre vie depuis quelques mois, depuis quelques années?
Je dois vous dire, Jacques Chancel, que, indépendamment des événements personnels auxquels vous venez de faire une mention affectueuse, je puis dire que c'est un sujet qui n'est jamais très souvent absent de mon esprit. Je réfléchis beaucoup à ces problèmes. Je m'intéresse à des problèmes généraux. C'est pour cela que j'ai fait de la politique, c'est pour cela que je fais de l'histoire. Je suis très préoccupé de la manière que nous avons d'atteindre ou d'approcher ce que j'ai appelé les mystères fatidiques. Et je cherche évidemment quelle est la signification de la vie, quel est l'avenir de l'espèce. S'il y a un projet de l'espèce, c'est pratiquement la seule idée à laquelle on puisse s'accrocher. Donc, si je puis dire, des esprits comme les nôtres n'ont pas besoin de rencontrer sur leur route ces événements pour se faire une certaine philosophie du monde. Naturellement, quand on les rencontre, cela ne fait qu'accentuer le souci de la méditation, tout en créant peut-être un climat émotionnel qui la rend moins scientifique.
Vous croyez à un au-delà, vous, Edgar Faure?
Vous m'interrogez sur le problème religieux. Je crois en principe au dogme de l'Église catholique à laquelle j'appartiens. Naturellement, ils peuvent avoir des interprétations différentes, et notamment il nous faut tenir compte de toute l'avance scientifique que nous avons prise depuis quelque temps. Je suis très intéressé par certaines écoles de pensée qui s'attachent au maintien du spiritualisme ou à son renouvellement. Par exemple, je suis très intéressé par les ouvrages de Raymond Ruyer, La glosse de Priestleton, Les 100 prochains siècles, le néo-finalisme, ou par d'autres études de ce genre. Je crois dans l'ensemble à une certaine forme de survie, mais je ne peux pas entrer dans le détail du dogme, mais je reconnais qu'il est difficile de se représenter la résurrection des corps. Néanmoins, c'est là un sujet théologique.
Là-haut, et vous le savez, vous serez sans doute président de quelque chose.
Je ne pense pas que les carrières ou les références soient les mêmes qu'ici.
Alors, vous n'avez vécu, Monsieur le Président, que pour la politique et tout ce qui lui ressemble. Vous pensez que c'était l'essentiel d'une vie et à certains moments, vous n'avez pas trouvé tout cela un peu vain? Et peut-être même aujourd'hui?
Non, je trouve que c'est plutôt moins vain que beaucoup d'autres choses, en ce sens que chacun, naturellement, a son ambition personnelle, ses traits de caractère. J'avais commencé ma carrière dans la vie dans une profession extrêmement intéressante, honorable, et où d'ailleurs je marquais d'incontestables succès. Tout le monde veut bien reconnaître que je suis un bon avocat. Mais je sentais dès le début, et sans vouloir du tout dénigrer cette très belle profession, qu'elle ne pouvait pas me satisfaire pleinement, car elle est opérationnelle. On s'occupe d'une affaire, d'un procès, de plusieurs procès, certains trois par jour, d'autres durent 6 ans, mais dans l'ensemble, la vie est tout à fait découpée en tranches. Or, j'avais l'ambition de m'attacher à des sujets plus permanents et plus généraux. J'hésitais entre la politique, la littérature, l'histoire. J'ai toujours eu le goût de l'histoire. C'est pourquoi, d'ailleurs, j'écris des ouvrages historiques. Mais l'histoire est une autre forme de la politique. Elle consiste à raconter la politique du passé, et la politique consiste à faire l'histoire du présent. D'ailleurs, récemment, un des nouveaux philosophes, M. Glucksmann, dans une étude très intéressante, a démontré que l'historien influait sur la politique, parce qu'il présente les événements d'une façon qui crée une codification et qui fait agir les gens dans un sens ou dans un autre. La manière dont on écrivit l'histoire romaine, manière d'ailleurs souvent déformante, a inspiré beaucoup d'actes de la Grande Révolution française. Et comme le dit Glucksmann, l'histoire s'avance en feuilletant un livre d'histoire. Un homme qui ne ferait qu'écrire de l'histoire pourrait avoir une influence politique formidable. J'ai donc considéré que c'était là deux carrières, si je puis dire, conjointes. Quand j'ai du temps, j'écris des ouvrages d'histoire, cela me permet aussi, pour l'action politique, de prendre du recul et peut-être plus de profondeur. Car nous autres hommes politiques, nous sommes guettés par la tentation de la vulgarisation ou de la facilité. Nous sommes des pédagogues, nous faisons nos cours. Nous répétons la même chose à nos électeurs. Plus nous le disons simplement, plus nous sommes contents.
Mais vous le dites.
Quelquefois, nous perdons.
Mais vous l'avouez.
L'essentiel, nous n'avons pas suffisamment de recul. Alors, on revient à une étude théorique, et puis, du moins, c'est la manière dont je procède, on se lance de nouveau dans l'action pratique, l'action directe.
Mais vous faites tellement de choses qu'on serait tenté de croire que vous avez beaucoup de temps. Ou alors, vous êtes, ce que n'aimait pas le général de Gaulle, vous êtes tout à fait disponible.
Non, ce n'est pas la question. En réalité, ce qu'il faut bien considérer, Jacques Chancel, c'est que j'ai l'air de faire beaucoup de choses. Mais je fais des choses qui se rapportent toutes aux mêmes méthodes et aux mêmes problèmes. Écrire un ouvrage d'histoire, écrire un article, faire un discours, faire une loi, ce sont des exercices très proches. D'autre part, j'économise beaucoup mon temps dans beaucoup d'autres domaines. Les sorties, il se trouve que je ne fais pas de sport, je ne m'en vante pas d'ailleurs, mais je ne passe donc pas de temps à cela. Je n'ai pas le temps d'écouter la musique à la radio alors que j'aime beaucoup la musique. Donc j'ai une administration de mon temps et j'ai une sphère d'intérêt identique qui est absolument cohérente.
Vous avez le temps de rêver quand même.
Là-dessus, oui, certainement. Surtout quand je dors. Là-dessus, il se produit un phénomène qui est l'extensibilité du temps. Le temps est élastique. Vous voyez des personnes occupées à des travaux mineurs et pas tellement, qui n'ont pas le temps de faire ce que vous leur demandez. Inversement, vous avez des personnes bousculées, surmenées, qui trouvent le temps de prendre encore un travail supplémentaire. Quand on est sur un rythme de travail intense, en général, ce rythme est très extensible. Il y a plutôt une question de liberté de l'esprit. Par exemple, je peux écrire un livre théorique tout en étant député, président de l'Assemblée nationale. Mais je ne pourrais pas le faire en étant ministre, parce qu'il y a un énervement perpétuel, une tension sur l'action. Quand j'étais Premier ministre, président du Conseil, ou ministre de poste difficile, ma seule occupation consistait à lire des choses faciles, des romans policiers, ou à regarder des feuilletons à la télévision, avec le même temps, avec le même calibre de temps. Tout dépend de la liberté d'esprit que vous avez. Ça ne veut pas dire que la présidence est un métier facile. Mais il n'y a pas, si je puis dire, de stress. On n'est pas dans une tension perpétuelle en se disant que de la mesure qu'on va prendre va dépendre le sort immédiat d'un certain nombre de gens ou la monnaie, les impôts, le bien-être du peuple, etc. C'est une fonction politique arbitrale qui prête beaucoup à la réflexion. Alors là, on peut écrire en même temps. C'est d'ailleurs ce que faisait mon illustre prédécesseur, le président Édouard Herriot.
Que vous manque-t-il, monsieur le président ? Vous avez eu tout dans votre vie, peut-être d'être président de la République ?
Je ne dirais pas que cela me manque, parce que si cela m'avait vraiment manqué, probablement je l'aurais été. J'aurais apporté une ambition plus soutenue. Donc c'est que je n'en avais
pas. C'est votre faute si vous ne l'êtes pas.
En partie, certainement. Je crois que j'avais ma chance à un moment déterminé. Je ne dis pas que j'aurais été élu, mais la période qui m'aurait été favorable était la période de 1969. Je bénéficiais d'une grande notoriété avec mon passage à l'éducation nationale, j'avais des amitiés dans la majorité, mais également dans l'opposition. Je pouvais tenter cette expérience. Mais j'étais très occupé par ma tâche à l'éducation nationale. Je n'avais pas pensé qu'on me l'enlèverait. J'avais même quelques raisons de penser qu'on me saurait gré, peut-être, de mon absence d'ambition présidentielle en me maintenant ou dans ce poste ou dans un poste important. Et je n'ai pas ressenti le punch de l'ambition, le désir de conquérir. Il y avait aussi quelques difficultés. En somme, c'est plutôt en effet par une insuffisance d'ambition de carrière que j'ai diminué mes chances d'arriver à la présidence de la République. Le problème d'ailleurs n'est pas pour moi uniquement un problème de poste. J'aime réaliser. dans les postes où je me trouve, je cherche à obtenir des résultats. Ces résultats peuvent être critiqués par la suite, mais je ne laisse jamais une gestion sans conclusion. C'est ainsi que dans toutes mes gestions, j'ai obtenu des résultats que l'on peut, je le répète, apprécier d'une façon ou d'une autre. Quand j'étais ministre des Finances, en 30 mois, j'ai obtenu que les prix n'augmentent pas de plus de 0,1%. À l'époque, cela paraissait facile. Aujourd'hui, cela paraît intéressant. Alors que tous les salaires montaient, que j'ai diminué les impôts, reconstitué les réserves d'or. Voilà quel était mon rôle. J'ai été d'ailleurs aidé par la chance. Mais la chance est une qualité du caractère.
Quand j'ai été Vous pensez que la chance est une qualité du caractère ?
Certainement.
C'est définitif, là.
Quand j'ai été confronté avec des problèmes que je n'avais pas l'ambition de traiter, puisque j'étais surtout un économiste, un ministre financier, j'ai été obligé de régler des problèmes urgents avec la Tunisie et le Maroc. Je suis arrivé à faire des accords avec ces protectorats pour les acheminer vers l'indépendance, au travers d'ailleurs de luttes farouches. Maintenant, je dois dire que ce même, et je pourrais les citer, qui m'avait le plus vivement combattu, on dit, vous avez bien fait de ramener la dynastie au Maroc, c'est le pôle de la francophilie, vous avez bien fait de vous entendre avec Bourguiba. Enfin, on pourrait l'apprécier autrement, mais
j'ai réalisé... Et Boumediene vous a reçu encore récemment.
Oui, je bénéficie d'un certain crédit, et c'est ce qui m'a permis d'ailleurs d'obtenir du président Boumediene l'an dernier, avec le concours de ma chère épouse, qui avait eu un rôle essentiel dans la manière dont elle avait parlé au président Boumediene, d'obtenir la libération des quelques Français dont on avait parlé à l'époque. Quand le général de Gaulle m'a chargé de voir ce qu'on pouvait faire avec la Chine, j'ai établi des rapports diplomatiques entre la France et la Chine. Quand j'ai eu à trouver quelque chose pour l'Europe, j'ai lancé le marché commun, je l'ai repris après comme ministre de l'Agriculture, je suis arrivé aux accords. Comme ministre de l'Éducation nationale, je sais que je suis contesté, je devais faire une loi, je l'ai faite, j'ai rétabli l'ordre de l'université, vaille que vaille, donc j'essaie d'aboutir, j'essaie de réaliser.
Et quel est votre échec alors ?
Eh bien, de mon point de vue, il n'y en a pas, mais naturellement,
aucun échec ?
il faudrait consulter les autres.
Alors, vous avez été l'avocat de votre vie, et je dois dire que cette vie est assez exceptionnelle, mais vous a-t-elle donné cette vie tout ce que vous souhaitiez ? Parce qu'on n'est jamais content de ce que l'on a fait.
Je n'ai jamais éprouvé de sentiment d'insatisfaction. J'ai éprouvé, comme tout le monde, le sentiment du doute, parfois de l'angoisse, notamment dans les circonstances que j'ai rappelées. Ce n'est pas de quête et de cœur que j'ai pris certaines décisions. Mais il se trouve, peut-être c'est un peu de fatuité de ma part, mais enfin je suis là pour vous dire ce que je pense, que il n'y a aucun acte que je regrette, il n'y a aucune décision que je juge mauvaise en m'y reportant. J'estime que j'ai fait ce que je pouvais, dont on aurait pu faire les choses un peu plus vite ou alors un peu plus lentement. Mais dans l'ensemble, je ne renie rien de ce que j'ai eu l'occasion de faire. Je n'ai pas d'insatisfaction profonde. J'ai pu avoir des déceptions de carrière quand on ne m'a pas gardé dans certains postes ou appelé dans certains autres, mais ce n'était pas pour moi l'essentiel. Et d'autre part, grâce aussi, je dois le dire, aux conditions de ma vie personnelle, puisque vous avez bien voulu y faire allusion, grâce à la perpétuelle collaboration que j'avais avec un être très cher et d'une haute valeur, grâce à ma vie familiale, je puis dire, en effet, cela peut être un peu beaucoup de dire cela, que je n'ai jamais été malheureux, n'est-ce pas ? Je n'ai jamais senti de troubles qui m'atteignent dans ma sérénité, dans mon contentement de faire ce que je faisais et d'être entouré de ceux qui m'entouraient.
Garfort, on peut avoir l'impression, et en plus c'est vrai, que vous êtes un personnage politique installé, bien installé, et quand même d'une certaine manière en marge. C'est-à-dire avec des possibilités particulières très fortes. Et ce que vous avez dit tout à l'heure en est un témoignage. La chance est un des traits du caractère. Mais je remarque, moi, depuis quelques années, mais peut-être me suis-je trompé, vous paraissez avoir trouvé depuis 2-3 ans, on pourrait dire, la vraie sérénité. Alors, seriez-vous moins occupé par le pouvoir et tout ce qui l'occupe ?
L'âge peut-être aussi pour quelque
chose. Non, ce n'est pas une question d'âge, car vous avez toujours la même vitalité,
le
même
dynamisme. Je ne me sens pas particulièrement décrépit.
Ce n'est pas une question d'âge.
En effet,
question parfois de dédain.
Exactement, le fait qu'on a déjà fait beaucoup de choses, exercé beaucoup de gestion, qu'on ne peut plus être candidat à autant de choses. Oui. J'aimerais me retrouver au moment où mon ambition était d'être secrétaire d'État chargé des forêts. J'étais passionné par les forêts. Je n'ai jamais pu être secrétaire d'État chargé des forêts.
Mais on peut y penser. Le président écoute peut-être.
C'est un peu tard maintenant.
Non, il n'est jamais trop tard.
Non, ce que je peux dire, voyez-vous, Jacques Chancel, c'est qu'il y a des qualités qui me manquent. Notamment, je ne suis pas très attiré par les activités de parti. Je n'ai jamais pu vraiment m'insérer dans l'activité d'un parti politique.
Vous êtes revenu au parti radical.
J'ai suivi, au fond, j'estime que moi je n'étais pas sorti, c'est le parti radical qui se baladait maintenant, il m'est revenu. Mais j'ai suivi ma ligne, je ne me suis jamais beaucoup préoccupé de discipline de parti, de propagande de parti, c'est sans doute mon point faible. Je n'ai jamais été poussé par un parti. les partis auxquels j'appartenais, et souvent ceux auxquels je n'appartenais pas, ont recouru à moi pour accomplir des missions déterminées. J'avais quitté le Parti radical pour rejoindre le général de Gaulle, et je tiens à vous dire que je ne le regrette pas. Je pense même, à l'occasion de mes voyages à l'étranger, je me disais il n'y a pas longtemps, quand j'entendais ce qu'on disait du général de Gaulle à l'étranger, la marque extraordinaire qu'il a faite, l'assimilation avec la France, quand des gens me disaient « Mais vous étiez avec le général de Gaulle d'un air admiratif », en somme, je recevais l'induction de la sympathie qu'ils avaient pour lui et de la gloire du général de Gaulle. Je me suis dit après, comme j'aurais été bête, si j'avais refusé cet honneur, cette mission, d'avoir été le collaborateur du général de Gaulle. Quand je pense que je l'ai laissé passer une fois, par souci de ne pas contrarier les gens du Parti radical et de ne pas passer pour carriériste, alors que les décisions que l'on prend dans le désintéressement ne sont jamais d'ailleurs bien interprétées, et que 15 jours après que j'avais refusé un grand ministère au général en 62, on disait déjà que j'intriguais pour en avoir un alors que je l'avais refusé. Heureusement, la deuxième fois, quand le général de Gaulle m'a appelé en 1966, je me suis rendu à son appel. Et j'étais très fier d'être son collaborateur. Mais j'en viens à dire que je ne me suis jamais senti un homme de parti.
Alors tout à l'heure...
Alors je n'ai pas eu le soutien qu'aurait pu me donner, dans certains cas, un grand parti.
Mais vous l'aurez peut-être demain. Vous le souhaitez, vous souhaitez le soutien d'un parti, vous souhaitez être le président d'un grand parti français.
Je n'arrive pas à m'installer complètement à l'intérieur d'un seul parti. Et au demeurant, la configuration des partis en France ne correspond pas tellement aux globalités de l'aspiration de l'esprit public.
Mais vous serez l'homme, quand même, peut-être, de demain, non ?
Oh, vous savez, je ne sais pas. En tout cas, il ne faut pas voir cela sous cet angle. Il ne faut pas concevoir un projet personnel. Il faut être prêt à faire ce que l'on peut pour régler des problèmes intéressants dans la mesure où on a le faire. Si on ne règle pas, on peut aussi donner des avis. Un homme qui n'a aucun poste peut un jour faire une déclaration, prendre une position qui a des conséquences considérables.
Vous allez la prendre, cette place ?
C'est possible, s'il se trouve que je la prends tout le temps, Jacques Chancel. Je réunis mes amis du nouveau contrat social.
Vous l'avez fait récemment.
Un groupe interparti. Nous avons énoncé un certain nombre de priorités. Tout le monde les a trouvées très intéressantes. On ne les applique pas, on y viendra. Quelques-unes de nos idées, tout de même, ont fait leur chemin.
Vous parliez tout à l'heure de la politique, j'en parlais avec vous, et je crois savoir que vous préparez un grand dossier sur la politique et l'essentiel de la politique, ou du moins l'essentiel des choses. Vous y croyez, à la politique ?
C'est-à-dire, dans la mesure où j'ai encore du temps, je n'ai pas l'intention maintenant d'écrire un nouvel ouvrage du genre historique, comme les deux que j'ai fait.
On parlera de la banqueroute de Lasse, parce qu'on dit Lasse, oui. Mais vous me raconterez tout à l'heure.
Alors, mon projet était depuis quelque temps, j'en avais parlé à quelques amis, notamment à des amis scientifiques, des sciences humaines ou des sciences scientifiques. J'étais frappé d'un phénomène, c'est que le monde a énormément changé ces derniers temps. En ce qui concerne la connaissance de l'homme, la biologie a fait des progrès extraordinaires. Nous savons maintenant que nous sommes des véritables codifications. Nous avons également des procédés scientifiques nouveaux, par exemple, tous les systèmes, la systémique, sur lesquels il y a des livres remarquables, celui de Le Sourne, celui de Fontanet, qui sont très intéressants. Nous avons conquis les astres, nous pouvons faire la grève du cœur, nous savons beaucoup de choses et nous pouvons beaucoup de choses. Or, dans la politique, on ne voit pas comment se traduisent ces connaissances, ces découvertes. Nous faisons toujours la politique comme on pouvait la faire du temps des Grecs, si vous voulez, dans les petites cités grecques, sauf que nous n'avons pas d'esclaves. Mais pour revenir à une période plus récente, rien ne distingue la manière dont nous faisons la politique de l'époque où on la faisait du temps de Royer Collard ou de Victor Hugo, ou entre les deux guerres. Or, pourtant, nous avons appris beaucoup de choses et nous avons acquis beaucoup de puissance. Donc, est-ce que nous ne devons pas chercher à tirer des déductions de toutes ces découvertes extraordinaires, notamment celles qui ont trait à notre structure. Tout ce qui a été étudié par Monod, Amburger, Jacob, etc., pour en déduire, non pas un changement, mais une meilleure présentation du profil des problèmes politiques, droits de l'homme, pouvoir, etc. J'essaie donc de faire une étude d'approche là-dessus, avec un petit groupe d'amis. Nous essayons en ce moment de travailler cela, et j'avais pris comme titre provisoire « L'essentiel de la politique et la politique de l'essentiel ».
Vous avez prononcé un mot, et ce mot est le mot « pouvoir ». Comment le recevez-vous, ce mot ? Comment le définissez-vous ? Est-il vulgaire, ce mot ? Ou plutôt, le pouvoir est-il vulgaire ? C'est l'abandon de beaucoup de choses, le pouvoir. C'est faire des choses que, parfois, on n'aimerait pas faire, et c'est les faire quand même.
Il y a beaucoup de formes de pouvoir. Un ministre a une forme de pouvoir. Ce pouvoir est limité par celui du président, par les services, par les résistances de la société ou de l'économie. Vous avez le pouvoir syndicaliste, vous avez le pouvoir intellectuel, vous avez le pouvoir des écrivains, vous avez le pouvoir des mass médias. Vous aussi, vous êtes un homme de pouvoir, Jacques Chancel. Vous pouvez influencer les gens.
De communication.
Oui, mais la communication est une forme de pouvoir. Il a beaucoup de pouvoir. Et comme je le dis, vous pouvez lancer une idée, exercer une influence énorme. Des hommes qui n'ont jamais exercé de fonction ministérielle, comme l'évêque Jansénus et comme Karl Marx, ont créé des idées qui, souvent après beaucoup de déformations, ont joué dans le monde un rôle immense. On peut essayer, vous me demandiez quelles étaient les idées, les projets qui pouvaient m'intéresser particulièrement. Eh bien, depuis 20 ans, il y a un sujet qui m'obsède, c'est le sujet du désarmement. Les gens n'y croient pas, mais néanmoins, il y a une chose à laquelle ils peuvent croire, c'est à l'armement atomique, ces avions qui circulent dans notre ciel en portant des charges de bombes, par rapport à la puissance desquelles Hiroshima ne serait qu'un petit jeu artisanal, un jeu d'enfant. Alors est-ce qu'on ne peut tout de même pas diminuer ce risque et diminuer ses dépenses? Et c'est toujours la même idée que j'ai lancée depuis 20 ans, que je reprends de temps à autre. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Sa sainteté, le pape, a développé le même thème dans l'encyclique Populorum Progressio, de prendre un peu sur ses dépenses de mort pour créer des dépenses de vie, pour apporter de l'assistance à des pays qui en ont besoin. J'étais l'autre jour au Brésil, pays en voie de développement, qui fait d'ailleurs un boom extraordinaire. Enfin, ce sont des gens qui ont besoin souvent d'être aidés. Alors, c'est une de mes marottes. Eh bien, je peux très bien, comme simple homme politique ou dans une conférence, travailler pour ce thème du désarmement, de la transformation de dépenses de mort en dépenses de vie.
Pouvez-vous être un simple homme politique?
Oui, absolument. Pourquoi pas?
En toute franchise.
Oui, ça m'est déjà arrivé.
En toute immodestie.
Ça m'est déjà arrivé. Il m'est arrivé très souvent d'être simplement député ou sénateur, membre du Parlement. Voyez-vous, c'est quand j'étais simplement sénateur que le général de Gaulle m'a chargé de ma mission en Chine, qui n'était pas tout de même une chose insignifiante. Plus tard, j'étais simple député quand j'ai été chargé par l'UNESCO de présider la commission sur l'éducation, qui a fait un rapport international qui sert de base actuellement à toutes les discussions dans le monde. En réalité, ce n'est pas du tout une question de poste, c'est une question de capacité et de disponibilité, de volonté.
Edgar Faure, à quel moment apprend-on le plus ? Vous avez occupé les plus hauts postes. Vous êtes un homme de ce pays, un homme dans cette civilisation, au contact de ceux qui tiennent le pouvoir. Mais peut-être n'est-ce pas auprès de cela que vous avez vraiment appris?
On apprend toujours, et on apprend surtout par l'expérience personnelle. D'autres peuvent vous donner des conseils, quelques formules auxquelles vous vous rapportez. De sorte que, non, je vous dirais deux choses. La première période où l'on apprend beaucoup, c'est dans l'enseignement secondaire. Je me souviens avec une précision extraordinaire de tout ce que me disaient mes professeurs. J'ai appris des choses essentielles dans les cours, notamment les cours de géographie que nous faisait M. Le Garay, qui était depuis inspecteur général. On apprenait les bases. Donc dans l'enseignement secondaire, on apprend beaucoup. Et ensuite, dans la vie, on apprend en agissant. Faire et en faisant se faire.
Edgar Faure, vous êtes avocat, vous l'avez rappelé, on le sait, vous êtes président de l'Assemblée nationale, mais vous êtes écrivain, vous avez écrit des romans policiers, vous êtes historien, et vous êtes donc créateur. Moi, je voudrais savoir si les hommes politiques sont des créateurs. Vous avez prouvé que vous pouviez l'être et que vous l'étiez. Mais est-ce une création que le pouvoir politique?
C'est une question rares de
sont,
mots.
Rares sont les artistes, les vrais créateurs qui s'engagent dans la politique.
Oui, mais il y a beaucoup d'hommes politiques qui écrivent, qui réfléchissent. Évidemment, quand on fait la profession politique, les autres activités sont plutôt accessoirisées par rapport à celle-là. Je vais reprendre par exemple le cas de l'eau. Quelle a été la leçon que j'ai tirée de mon étude sur l'eau ou l'As, sur sa banqueroute, sur cette période de la Régence? Il y a un point qui m'a frappé. J'étais en train d'étudier ce sujet, je lisais les écrits des économistes, principalement anglais de l'époque. L'eau n'était pas le seul. Une chose m'a frappé, c'est l'accent mis sur le travail. Et l'eau explique très clairement, bien qu'il passe pour un aventurier, c'était un très bon économiste pour 100 ans, il explique mathématiquement qu'il y a une seule source de richesse, que ce n'est pas l'or et l'argent, c'est des fariboles, que c'est même pas la terre, c'est le travail. Parce que c'est le travail qui crée de la valeur, qui ajoute de la valeur. Alors, tout d'un coup, j'étais là dans mon bureau présidentiel, mais j'avais un peu de temps, je travaillais, je lisais, j'annotais. Alors je me suis dit, mais vraiment, nous serions impardonnables, nous, 250 ans plus tard, avec l'ordinateur, avec l'énergie, de ne pas comprendre ce que comprenait M. John Law. il y a 250 ans, à savoir que le travail est sourd de toute valeur, qu'il ne faut pas qu'il y ait de chômeurs dans un État. Il faut que tout le monde soit employé. C'est à ce moment-là que j'ai lancé au congrès de Poitiers, de mon mouvement, la formule « le droit au travail », que j'insiste, nous devons trouver le moyen de donner le droit au travail. Je reviens donc à mon thème initial, je veux dire que pour nous, hommes politiques, évidemment, nous ramenons un peu tout à la politique. Il se peut que j'aurais pu faire des livres d'histoire qui me vaillent de la notoriété à seul titre, mais étant donné mon rôle politique, c'est surtout pour moi une manière d'enrichir ma pensée, de la fixer et de la rendre plus féconde.
Mais je voulais dire cela tout à l'heure. N'êtes-vous pas passé à côté de votre œuvre romanesque, ou de votre œuvre d'historien, ou de votre œuvre d'écrivain tout court? Justement, mais comme vous avez réussi dans la politique, il faut bien trouver le tournant, le mauvais virage, le côté où peut-être vous n'avez pas réussi ce que vous souhaitiez.
Oui, mais je pense que j'étais moins doué pour cela. J'étais très tenté par la littérature. J'aurais voulu faire une carrière d'écrivain. Mais j'ai remarqué que...
Un peu jaloux de Lucifer.
Oh, j'avais commencé d'écrire, non pas du tout, au contraire. J'ai beaucoup poussé ma femme à faire sa carrière littéraire, beaucoup, parce qu'elle hésitait, malgré ce que l'on peut penser d'elle d'après sa grande assurance, son extérieur. Ma femme avait un grand fond de timidité. Elle a beaucoup hésité à écrire et à publier. J'aurais pu la décourager facilement. Je l'ai toujours encouragée. Eh bien, je considère que ma femme est un meilleur écrivain que moi. J'ai essayé d'écrire, j'ai écrit des choses plausibles. En réalité, j'écris mieux des ouvrages historiques, par exemple, des ouvrages de fiction. Mais d'une façon générale, je suis meilleur orateur qu'écrivain. Donc, si j'avais voulu faire une carrière d'écrivain, je ne pense pas que j'aurais été un grand écrivain, pas un des plus grands. De même, j'aime beaucoup la poésie. Je compose des poésies, j'en ai toujours fait, je n'en ai jamais publié. Parce que je les juge
pas... Un jour, quand même.
Peut-être, mais j'ai fait des chansons, certaines je les trouve pas mauvaises, mais je ne les publie pas, je ne les diffuse pas. Parce que je pense que cela n'atteint pas un degré d'excellence. Je pense que mon œuvre historique est très honorable, et je pense que c'est pour la carrière politique que j'étais le mieux doué, que par conséquent, c'est là que je pouvais faire le meilleur emploi des capacités qui m'ont été données par la Providence.
Alors voilà, devant moi, cette Bible, parce que c'est un livre énorme, près de 800 pages, bon, 650 pages à peu près de votre écriture. J'ajoute à ces pages-là les annexes, et puis j'ajoute à ces pages-là également l'index. Il s'agit de la banqueroute de l'eau. D'abord, pourquoi prononce-t-on l'As? L'eau, c'est L-A-W. Hein.
Oui,
c'est un bon écossais.
C'est une histoire qui amuse beaucoup les gens, parce oui. Qu'au collège, quand on en parle, on dit souvent le système de l'As. Alors, à l'époque, on disait l'As. Pourquoi disait-on l'As? Parce que l'eau ou l'As était écossais. Et il écrivait un S après son nom, très souvent, comme font, paraît-il, beaucoup les Écossais. L'ambassadeur d'Écosse, à l'époque, s'appelait Ster. Il écrivait Sterce. Il paraît que ce S rajouté vient de...
Ça faisait chic.
Du fait son, n'est-ce pas, son,
fils de... Ah, fils.
Fils de... Alors aussi, on écrivait force, qui voudrait dire fort, fils de fort. Alors, il écrivait... L-A-W-S. Et en écossais, on ne prononce pas le W à la fin, alors qu'en anglais, on le prononce. Donc, lui-même disait l'As, pour parler de lui, et tout le genre ont écrit l'As avec un S ou deux S, et il le faisait rimer d'une part avec hélas, et d'autre part avec l'As. L'As de pique, c'était un joueur, il disait qu'hélas, c'est l'As, n'est-ce pas? Doit-on prononcer aujourd'hui l'As? Selon les érudits qui ont étudié cette question, on devrait en effet le prononcer l'As, puisque c'est ainsi qu'on le prononçait à l'époque.
Oui, si vous dites la banqueroute de l'As maintenant, que vous
l'avez dit,
on ne sait pas.
Inversement, c'était une prononciation phonétique, et comme dans l'histoire, on a pris l'habitude d'écrire l'eau, alors on peut se demander s'il faut prononcer l'As. C'est un sujet que je laisse en réalité au choix de chacun.
Alors, prenons votre sujet. D'abord le personnage, on se situe immédiatement au XVIIIe siècle. C'est un aventurier, c'est un duelliste, c'est un joueur.
Vous c'est le dites un aventurier par accident, plutôt que par esprit.
Il a oui, mais un ce n'est pas péjoratif.
Non.
Hein? C'est un homme de génie, d'après vous.
C'est un homme de génie. C'est un homme de grande valeur.
Alors, vous l'avez choisi, vous nous le racontez. Je dois dire, personnellement, je n'avais pas été tenté par ce personnage. Je vous ai lu, mais je me suis intéressé, au-delà du personnage, à une époque. Et forcément, l'époque m'a fait revenir à lui.
C'est l'époque qui est intéressante.
C'est la Régence.
En réalité, je n'ai pas fait une biographie de l'As.
C'est vrai.
Ce qui m'a été demandé, parce que j'aime bien travailler sur demande, sur commande. Quand je veux moi-même faire un livre, je commence, et puis après, je m'occupe d'autre chose. Là, quand j'ai un éditeur qui m'a demandé de faire un livre que j'ai accepté, J'ai un fonds régulier, je me dis, il faut le faire. C'est ainsi que c'est à cause des éditions Gallimard qui ont fait cette collection que j'ai écrit.
Qui est une très bonne collection, en plus.
Je crois pas mauvaise.
30 années qui ont fait la France, 30 journées plutôt.
C'était les deux sujets d'histoire économique sur 30. On m'a proposé ces deux sujets au choix. J'ai pris Turgot pour résister à l'attraction qu'exerçait sur moi, justement, l'eau et sa régence, période brillante, coruscante, avec l'histoire du Bossu, avec les fêtes, la rue Quincampoix, l'assassinat de Condor. Je me dis, tout ça, c'est trop facile, c'est feuilletonesque. Je vais prendre un sujet bien ennuyeux pour en voir la profondeur. Je vais prendre Turgot. En réalité, Turgot n'était pas si ennuyeux qu'on le croit. Je pensais que le personnage était froid, que j'allais avoir de la peine à vivre dans sa promiscuité. En réalité, c'était un homme, en effet, seul, assez renfermé, mais noble, enthousiaste, et qui m'a beaucoup intéressé. Je me suis pris d'affection pour lui. Un homme certainement supérieur comme qualité humaine totale à Allo ou Lars. Et puis après, mon éditeur Gallimard m'a reproposé le second sujet en me disant qu'il ne trouvait que moi pour le traiter.
Ce qui est et vous avez cru, hein.
Je l'ai cru, et que je serais ainsi le seul auteur ayant écrit deux livres dans la même collection où il y a des signatures très importantes, comme vous le savez. On attend d'ailleurs les deux derniers ouvrages, 28 ont paru, les deux derniers, il y a d'une part l'avènement de Hugues Capet, je crois, que traitera mon éminent collègue le professeur Le Marinier, et puis enfin, il y a le coup d'État du 2 décembre, pour lequel l'auteur choisi n'est autre que François Mitterrand, et pendant longtemps on se demandait qui, de Mitterrand ou de moi-même, serait le premier au poteau. Pour l'instant, c'est moi, hein, dans ce domaine.
Mais vous le signalez quand même, c'est déjà une belle arrivée, hein, monsieur le Président.
Alors, je souhaite d'ailleurs qu'on lui donne tous les loisirs nécessaires pour qu'il puisse accomplir cette œuvre importante, car c'est un excellent écrivain.
Alors dites tout de suite que vous souhaitez pour mars 78 la défaite de François Mitterrand et du Parti. C'est d'une clarté évidente.
J'ai démontré moi-même qu'on pouvait avoir des loisirs tout en ayant un rôle politique.
Alors pourquoi...
Je ne peux pas dire que je souhaite la victoire de l'union du programme commun de la gauche. En effet, je ne la souhaite pas. Cela n'empêche pas que j'ai pour François Mitterrand des sentiments de grande considération.
Enfin, vous le voulez surtout grand écrivain et vous souhaiteriez qu'il ne soit pas grand politique.
Je crois qu'il fait il est un grand écrivain. Je souhaite qu'il soit longtemps un grand chef de l'opposition.
Vous ne pensez pas du tout à la victoire de la gauche pour mars 78?
Je ne l'exclus nullement. Je la juge comme très possible.
Vous vous engagerez dans ce combat?
Je m'engagerai dans le combat pour les idées, naturellement, avec toutes les réserves qui s'imposent à l'égard des personnes dont je respecte la qualité et la sincérité. Mais je pense qu'il s'agit d'un enjeu national. Je pense franchement que le programme commun ne serait pas une bonne expérience pour la France, et par conséquent, je m'engagerai totalement dans la résistance à ce programme commun, à l'essai que l'on fait de nous imposer cette forme qui, à mon avis, aboutirait à des conséquences tout à fait préjudiciables.
Vous arrive-t-il de répondre à cette question « Suis-je un homme de gauche ?»
Je pourrais vous répondre qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, mais il paraît que c'est la définition d'un homme de droite. En réalité, homme de gauche ou homme de droite, ce sont des significations qui sont un peu dépassées par le fait de l'expansion économique. À l'origine, l'homme de droite est celui qui est prudent, qui résiste au progrès et qui tout de même garde un peu de sécurité. L'homme de gauche est celui qui voudrait progresser très vite, notamment dans le domaine social. Il a raison, il est généreux sur ce point, mais quelquefois il est imprudent. Alors, dans une société à faible expansion économique, où le revenu national augmente faiblement chaque année, on est obligé d'alterner des méthodes de gauche et des méthodes de droite. Tantôt un coup d'accélérateur, tantôt un coup de frein. Parce que si on n'a que des gouvernements de droite, ce sont des gens qui ne veulent rien changer et on ne bouge pas. Si on n'a que des gouvernements de gauche, ils vont trop vite, ils vont trop fort et on culbute, comme cela s'est produit souvent. La situation est différente dans une période d'expansion économique. Bien qu'elle se ralentisse un peu, on compte encore essayer d'avoir l'année prochaine 4 ou 5 points d'avance. Imaginez qu'auparavant, il fallait 50 ans pour faire ça. Donc, dans une période d'expansion, vous avez un avantage, à savoir que vous pouvez distribuer chaque année, sans faire crier personne, le supplément de la production nationale. Vous pouvez donc augmenter les salaires sans diminuer nécessairement les revenus des patrons ou des commerçants. Vous pouvez porter votre action. Là, on peut faire une politique constante qui soit à la fois de droite et de gauche. C'est-à-dire à la fois prudente et généreuse. C'est ce que j'avais appelé d'ailleurs à mon époque de ministère, l'expansion dans la stabilité. Donc l'alternance entre un mouvement généreux et imprudent d'une part, et d'autre part un mouvement prudent mais trop rigoureux, n'est plus nécessaire. on peut réaliser cette combinaison puisqu'on marche.
C'est le compromis historique. Vous voulez vraiment le grand rassemblement de la majorité et de l'opposition.
C'est un des moyens par lequel on peut traiter le problème. Mais on peut avoir deux partis différents qui gèrent tous les deux l'expansion d'une façon à peu près analogue. Ce que je pense, c'est qu'actuellement, la politique du programme commun, bouleversant l'économie française, arriverait sous prétexte de mieux répartir l'expansion à la supprimer. Or, je pense qu'il faut garder l'expansion, mais on peut discuter sur les moyens de la répartir.
Bon, le président Sadat...
Alors, si les partis dits de gauche acceptaient le maintien du régime, ce qu'ils ne font pas, et le maintien de la structure économique suffisamment libérale, semi-libérale que nous avons, alors on peut très bien avoir des idées unanimistes sur la manière de partager les résultats de l'expansion, puisqu'elle continuera. Et c'est d'ailleurs l'objet du plan. Au début, dans le plan, les commissions discutaient. Dans les commissions, il y avait des syndicats, des gens de gauche, des gens de droite, des gens du centre. Maintenant, il y a des difficultés, certains se retirent, disons qu'ils ne veulent pas participer à la discussion, mais on pourrait faire une politique bipartisane en matière économique avec la planification. Parce que la planification n'est pas de droite. La droite n'est pas planificatrice. Elle est mercantile, libéraliste, laissez faire, laissez passer. Et la gauche pourrait être planificatrice, mais elle est révolutionnaire, elle est dirigiste. Alors, c'est autre chose. Le plan n'est pas dirigiste, mais le plan n'est pas conservateur. Donc autour d'une politique de troisième voie, qui est la politique planificatrice, tout le monde peut en effet travailler ensemble. Ou s'il est nécessaire de maintenir deux tendances, elles peuvent alterner avec des nuances. Ce qu'il y a d'ennuyeux, c'est que vous avez actuellement une tendance qui consiste à vouloir tout mettre en l'air et faire quelque chose de tout à fait différent.
Le président Sadat a visité récemment le Premier ministre Begin. Pensez-vous que le secrétaire général François Mitterrand devrait visiter le président de la République française ?
Ce sont des problèmes différents.
Ah, complètement.
La visite du secrétaire général du Parti socialiste au président de la République serait beaucoup moins spectaculaire. Elle me semblerait entrer dans le cours normal des choses.
Ce que vous souhaitez,
mais
alors.
Je pense qu'il est normal que dans une société comme la nôtre, il y ait des contacts aisés entre hommes politiques. Je dois dire qu'à l'Assemblée nationale, je suis président, je suis élu par la majorité, mais les groupes communistes et socialistes se rendent à mes invitations, soit personnelles, soit mondaines, sans aucune difficulté. Je ne sais pas pourquoi en France il y a cette sorte d'antagonisme ou de séclusion, c'est un phénomène bizarre. Néanmoins, s'ils ont quelque chose à se dire, il ne manque pas de personnes qui peuvent servir d'intermédiaire. Ce qui est d'ailleurs d'assez amusant, c'est de voir se confronter dans les masses médias des gens qui ne voudraient pas se rencontrer autrement. Au moment où la gauche ne se rencontre plus, alors elle se rencontre à la télévision, devant tout le monde. Mais la visite de Sadat à Begin est un événement d'une toute autre portée, et je dois dire un événement considérable.
Tout à l'heure, Edgar Faure, je vous demandais ce qu'il manquait à votre gloire. Je pense en effet que, puisque vous n'avez pas été président de la République, que vous pourriez être président du compromis historique, président de cette réconciliation et de la majorité et de l'opposition. Vous le souhaitez peut-être.
Pourquoi
mais c'est une utopie.
Me faire toujours présider quelque chose?
Enfin,
je peux
autre
agir
chose,
sans
oui.
présider et on peut également présider sans agir.
Vous le pensez vraiment?
Je ne suis pas fixé, vous savez, sur une ambition déterminée. J'ai toujours chevillé au corps et au cœur l'ambition d'agir, de réaliser, d'être utile. C'est cela, n'est-ce pas, ma passion? Puisque vous parlez tout de même des limites de la vie humaine, je les comprends bien. Je sais bien que certaines choses font plaisir, que ce sont tout de même des hochets. Donc, je crois que la seule chose importante, c'est de réaliser, d'avancer dans des réalisations. Dans des réalisations conformes à mon idéal, qui est en effet un idéal de concorde, un idéal de coopération. Je ne vois pas du tout pourquoi les Français seraient fâchés entre eux, se battraient à couteau tiré, enfin même symboliquement, alors que tout de même la France n'est pas un pays très malheureux, la France n'est pas un pays dépourvu de liberté, dépourvu de démocratie. Ce n'est pas vrai. La plupart des gens que je connais dans tous les partis sont des hommes de bonne volonté, de bonne foi. Alors pourquoi ces séquelles d'un monde divisé, d'un monde antagonistique.
Quelles sont vos vraies sources? C'est le pays profond, c'est la France. Où puisez-vous toutes vos raisons d'être, d'exister? C'est dans les racines,
j'aime
dans la terre.
J'aime bien la France provinciale, la France rurale. J'y suis en effet très
attaché.
C'est
la vraie France pour vous?
Tout est la vraie France. Paris aussi est la vraie France. Mais la France rurale, provinciale est plus sensible, plus perceptible. J'avais envisagé, comme vous le savez, l'année dernière, pour la raison que vous connaissez bien, c'est l'état de santé de ma femme, de ne pas me représenter dans ma circonscription et d'être candidat à Paris. Je préfère être député de province. Je n'aimerais pas tellement être député de Paris, c'est très honorable, mais je n'y suis pas habitué depuis longtemps maintenant. Je représente une région très ordonnée, où il y a des villes, une grande ville qui est Besançon, des plus petites villes, et puis beaucoup de villages, beaucoup de champs, beaucoup de fermes, de l'agriculture, de la petite industrie, de la grande industrie. C'est très varié, c'est très complet. D'autre part, cela permet de voir davantage de monde. Peut-être noter les représentants des partis communistes socialistes ont l'avantage de voir plus d'ouvriers que nous n'en voyons. Donc, dans les villes où il y a beaucoup d'usines, ils ont peut-être davantage de contacts. Nous, les députés ruraux, nous voyons tout le monde à la campagne. Dans mon conseil municipal, quand j'étais à Port-l'Aîné, j'avais un ouvrier, un commerçant, deux paysans, enfin des gens variés. De même, quand j'étais maire de Pontarlier, j'ai reçu à ma mairie un peu tout le monde. On voit dans ces réunions les plus variés, les mariages, les enterrements, les réunions publiques, les réunions de maire, on voit beaucoup de monde et on parle à cœur très ouvert. On sent davantage battre le cœur du pays.
Vous êtes toujours disponible. Vous avez pu à un certain moment être étudiant, faire des choses. Et j'ai l'impression que demain, vous pourriez recommencer à zéro tout à fait autre chose. Mais je ne sais pas quoi. Peut-être une curiosité, apprendre le chinois ou tout à fait autre chose. Vous en êtes encore capable?
Je suis certainement capable de travailler et de faire des choses variées. Maintenant, je suis soucieux de ne pas me livrer des activités et qui serait totalement inutile, quoi que ce soit.
Ah, l'inutile a de la vertu.
Apprendre le chinois, en effet, ne serait pas ennuyeux. Enfin, je n'aurais pas
la possibilité...
Je parle pour les caractères. Hein. Quoi, non ?
Je parle pour les caractères chinois. Les caractères chinois, joli, oui.
Je n'aurais pas la possibilité d'en tirer un grand parti, car il y a des traductions, presque toujours.
Alors revenons à la banqueroute de Lasse, puisqu'il faut prononcer Lasse, mais je lis toujours L-A-W.
C'est possible, on peut dire également l'eau. Je suis favorable aux deux systèmes.
Parce que c'est la Régence personnellement qui m'a touché, mais moi je me suis toujours demandé pourquoi vous aviez écrit sur cet homme, parce que je crois vous aimez les vies d'une certaine manière démesurée, parce que vous avez été séduit par lui, et on pourrait penser d'une certaine manière, certains pourraient le penser d'ailleurs, que vous avez fait peut-être une autobiographie, que vous êtes un peu reconnu chez lui.
L'élément biographique est intéressant. Je suis beaucoup plus éloigné d'un homme comme Lowe que je le suis d'un homme comme Turgot. Oui. En dehors du fait que je n'aime pas me battre en duel et que je n'ai jamais été condamné à mort, je n'ai pas ce grain de folie qu'avait Lowe, qui l'a conduit d'abord à un succès vertigineux, mais ensuite à un échec considérable. Je serais plutôt un rationaliste à la manière de Turgot. Je n'ai pas son esprit systématique. Homme de génie, il était trop systématique. Il raisonnait trop jusqu'au bout. Il ne tenait pas suffisamment compte des nuances, des objections de la réalité. Donc ce n'est pas un personnage dont je me sente proche. Je ne savais même pas s'il me serait sympathique, mais j'ai été frappé d'une part par sa grande intelligence, l'excellence des théories économiques, l'importance qu'il accorde au travail, aux travailleurs, aux producteurs, c'est très social, et puis par le fait qu'il est mort pauvre alors qu'il avait brassé des sommes vertigineuses. Donc j'en ai déduit que c'était un homme qui n'était pas un homme bas. D'ailleurs, c'est ce qu'avait dit le régent. Il a dit, il n'y a pas de bassesse dans M. Lowe ou M. Lasse. Seulement, je dois vous dire que mon livre porte ce nom, c'est le titre de la collection, mais ce qui est important, c'est l'époque. C'est une époque charnière pour la France, comme il y en a eu quelques-unes. C'est presque une époque plus charnière que la Révolution française,
c'est un passage.
Qui est plus spectaculaire. Parce que la France, à la fin du règne de Louis XIV, est un pays hébété, un pays hiberné. Le roi Louis XIV, le roi Soleil, a répandu l'ombre sur la France. Elle vit dans les ténèbres, elle est pauvre, elle est exsangue, elle est malheureuse, elle est triste. Le roi a fait régner à la cour la morosité de la bigoterie la plus hypocrite. Il se montre tout à fait rigoureux sur les sujets de la religion, alors qu'il a légitimé ses propres bâtards. Il y a là une contradiction essentielle. Il a révoqué l'édit de Nantes et chassé de France des protestants, parmi lesquels il avait des très braves types, naturellement, des ouvriers, mais aussi des esprits brillants. Il a fait un véritable brain drain, il a renvoyé à l'étranger des hommes qui auraient été parmi l'élite commerciale, financière, industrielle, technique de ce pays. Cette décision était mauvaise, sa politique extérieure, orientée vers des guerres perpétuelles, des guerres dynastiques, n'était pas bonne. Et le détail essentiel, la France se dépeuplait. Les hommes de l'époque ne s'en rendaient pas compte, ils n'avaient pas les statistiques. Aujourd'hui, nous, nous le savons. Encore, ils s'en rendaient un peu compte. Nous avons en effet les registres des baptêmes, des mariages. La France se dépeuplait. C'était un pays triste, pauvre et en voie d'extinction. Là-dessus, alors arrive le stress. Un autre homme, le régent. Naturellement, c'est le contraste. L'histoire aime les contrastes. Il remplace un homme sévère, non pas par un homme un peu moins sévère, mais par un homme déchaîné, un libertin, un fantaisiste dans tous les genres.
Vous aimez le régent.
Mais aussi un novateur. J'ai une certaine sympathie pour lui en raison de son intelligence et de sa finesse et des services qu'il a rendus au pays. Et en même temps, on fait venir aux finances parce qu'on a besoin de nouveaux et puis on a besoin de miracles, on a besoin de faire marcher l'économie, de trouver de l'argent, il n'y a pas un sou. On fait venir l'eau puisqu'il se propose. Alors tout repart. Il court à la catastrophe, mais tout ce mouvement qu'il a créé, vous savez, c'est comme vous secouez violemment un corps qui était malade, et alors au lieu de le tuer, ça le remet sur pied. À ce moment, les affaires repartent. Il n'y avait pas d'argent. On en trouve trop, on en fabrique, on fait marcher la planche à billets, mais alors on engage des ouvriers, on crée des usines, les petits paysans vendent leurs produits contre de l'argent, et puis ils paient leurs fermiers, leurs propriétaires et les impôts avec des billets qui diminuent de valeur. Alors ils prennent un peu d'argent, ils paient leurs dettes. Ils étaient endettés, ces pauvres gens, ils payaient quelques sous de dettes, ça leur coûtait très cher parce qu'ils gagnaient peu, de dettes remontant en temps de Colbert. Alors ils revivent, ils mangent mieux, la France mange mieux. Et l'eau l'a remarqué, il avait raison, nos statistiques le confirment, les ouvriers sont mieux payés. Alors l'eau, on le sacrifie. Il était nécessaire, comme on sacrifie une compagnie de cavalerie dans un assaut. Il en a fait trop. Il s'est fait fusiller. Mais alors, il reste la bonne partie de ce qu'il a fait. Et on en profite. Et quelques années après, alors les conservateurs disent « Ah, mais tout de même, ces ouvriers, ils mangent beaucoup. Ça les rend insolents. » Le raisonnement est très curieux. Il est fait à l'époque. Mais ce n'est pas tellement de l'époque. La formule « les Français consomment trop », elle est de tous les temps, elle me fait toujours rire. Les Français consomment trop.
Vous êtes pour la consommation.
Quels Français consomment trop? Oui, bien sûr, les Français consomment trop. La plupart des Français qui consomment ne consomment pas assez. Et à l'époque, on disait déjà, l'intendant Daudin, le contrôleur général, deux ou trois années après l'eau, disait « Ah, on leur a donné trop d'argent, alors ils consomment trop !» C'est contraire à la bonne économie orthodoxe. Quand ils mangeront un peu moins, mais ils le disent, ça, je l'ai cité dans mon livre, ils seront moins insolents, moins opiniâtres. Ils faisaient des petits syndicats, ces ouvriers. Scandale, n'est-ce pas? La France était perdue, puisque les ouvriers faisaient des syndicats. Ils avaient même fait un fonds commun en cas de grève pour se payer eux-mêmes. Naturellement, ils ont été condamnés. Et puis, on a trouvé un ministre qui a dit l'orthodoxie d'abord, il a remis le franc trop haut, et puis l'économie s'est un peu rendormie. Mais enfin, à partir de la période de la Régence, de l'expérience de l'eau, qui en est un élément de ce grand débridement, à partir de cela, la France, alors, est rentrée dans la modernité. La démographie a repris, ça marche en avant. Et on peut constater ceci. Nous avions du retard sur l'Angleterre. Donc, nous partons d'un taux de production plus faible que le taux anglais. C'est ça, c'est Perfit a étudié ce sujet d'une façon remarquable dans Le Mal Pensé. Il a, à mon avis, donné peut-être un peu trop de rôle à la région. Enfin, quoi qu'il en soit, l'Angleterre marchait en avant, et la Hollande, et puis les Français traînaient. Mais à partir de la coupure de la Régence, à partir de l'année charnière, nous ne rattrapons pas l'Angleterre comme taux, mais nous reprenons le mouvement, de sorte que nous avançons au même rythme en partant d'un point plus bas. C'est la naissance de la France moderne, de la France contemporaine.
C'est le nouveau contrat social.
Il y a du nouveau contrat social, même en effet, dans les théories de l'eau, dans la mesure où il dit « Je m'intéresse au peuple qui travaille, aux gens qui travaillent, qui produisent ». Et il a à ce moment-là une idée qu'il a peut-être poussée trop loin. Mais il établit une opposition entre deux sortes de capitalisme. Et là, c'est également une leçon importante à tirer. On parle du capitalisme. Le capitalisme, ça ne veut rien dire. Il y a deux capitalismes. Le capitalisme rentier et le capitalisme entrepreneur. L'intérêt du capitalisme rentier n'est pas le même que celui du capitalisme entrepreneur. Le rentier veut avoir un haut intérêt de son argent. Et l'intérêt était trop fort, d'autant que les rentes étaient perpétuelles. Alors les ouvriers, les industriels, travaillant, il était pour garder un train de vie important à messieurs du Parlement et autres rentiers, propriétaires fonciers qui recevaient la rente et ne faisaient rien du tout, qui n'animaient pas l'économie. Alors l'eau arrive, il dit, on leur donne trop d'argent à ces gens-là. La rente, je la diminue de 4 à 3, puis de 3 à 2, c'est très suffisant, avec 2%, et avec ça, on trouvera de l'argent pour lancer des bateaux, pour faire des commerces, etc. On parle beaucoup de la lutte des classes. J'ai essayé de trouver des signes de la lutte des classes au XVIIIe siècle. Mais la lutte des classes, c'est une notion schématique. On vous dit, il y a d'un côté les possédants, les richards, les gros, et puis de l'autre côté, tous les malheureux, les affamés, les misérables. Alors, ils n'ont pas tous compris leur sort, mais normalement, ils sont tous les adversaires des gros richards qui se nourrissent de leur sueur et de leur sang. Mais dans l'histoire, les choses ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas d'un côté quelques richards et de l'autre côté la masse des pauvres boucs. Il y a d'un côté des gens qui prélèvent, sans rien faire, quelque chose sur la richesse publique. Je ne dis pas qu'ils ont tort, ils avaient jadis de l'épargne, enfin, c'est-à-dire les rentiers, au sens général du mot, ceux qui reçoivent des revenus sans activité. Et de l'autre, il y a tous ceux qui sont intéressés à la vie de l'économie. C'est-à-dire à la fois les ouvriers, les producteurs paysans et les entrepreneurs, les patrons. Leurs intérêts sont conformes. Et ce qui m'a frappé, voyez-vous, l'autre jour au Brésil, des journalistes m'ont dit, ils me parlaient d'une libéralisation du régime qui est en effet sur cette voie. Il ne faut pas dire que le Brésil est un régime sans démocratie, ce serait une erreur. Mais quoi qu'il en soit, il y a une demande de démocratie plus proche de nos conceptions. Alors, voilà ce que m'ont dit des journalistes dans ma conférence de presse. Mais, monsieur Faure, il y a une demande des travailleurs et des entrepreneurs, travailleurs et patrons, qui voudraient une constitution plus libérale, non pas par idéologie, mais parce qu'ils pensent que ça favoriserait l'économie. En effet, la liberté est un phénomène qui se propage partout. Quand vous avez de la liberté, vous avez en général une science, une technologie meilleure, les esprits sont plus libres, ils sont plus inventifs. Quand vous avez une économie plus libre, elle est plus prospère, tout en pouvant supporter certains contrôles. Et quand on a d'ailleurs libéré les serfs en Russie, c'était pour avoir une meilleure économie et pas par idéologie. Donc j'ai été frappé, vous voyez, je sortais de l'histoire avec l'eau, et je faisais dans l'espace le même crochet que j'avais fait dans le temps. Je retrouvais cette solidarité de l'ensemble des producteurs, les tout petits et puis les grands, qui voulaient une économie plus prospère, et pour cela, eux, un régime politique plus libre, plus libéral. C'est très frappant.
Mais Edgar Faure, en ce moment, en France, qui pourrait être le régent? S'il devait y en avoir un, attention. C'est une question que vous êtes parfois posée en écrivant ce livre, parce que dans ce livre, vous êtes beaucoup amusé. Hein.
Oui, on ne peut
vous
pas
avez
du
eu
tout
de drôles d'idées aussi, vous on avez pensé à beaucoup de choses.
On ne peut pas du tout comparer les situations.
Bon, elles sont parfois comparables.
Non, parce que la gestion monarchique est tout à fait différente. Le régent avait un avantage. C'est un homme qui était ouvert aux idées modernes. D'autre part, c'était un homme actif. Et enfin, comme il avait besoin de beaucoup d'argent, il a choisi quelqu'un qui pouvait en trouver. Il en a gagné beaucoup lui-même. Il a laissé beaucoup d'argent. Quand le régent est mort, il y avait dans les coffres du roi 91 millions en or. Alors quand le régent est arrivé, il n'y avait pas un fifrelin. Et en attendant, il avait financé la guerre d'Espagne, qu'il avait gagnée. Il avait largement doté ses filles. Il avait pourvu ses innombrables maîtresses de cadeaux somptueux. De notre côté, le régent est un personnage qu'on décrit assez justement d'ailleurs par une certaine débauche, les habitudes de tous ses soupers, un certain excès.
Enfin, il y a deux
personnages. J'ai même eu l'impression en réalité que le régent s'amusait quand il travaillait et qu'il allait faire la fête et la noce avec une sorte de reluctance et de fatigue. D'ailleurs, il allait mort comme on va au boulot. Je me suis demandé, c'est une hypothèse peut-être un peu libre, si cet excès de boulimie féminine n'était pas dû au fait que son père était notoirement de l'autre côté et qu'il n'a pas voulu être considéré comme appartenant à la même école, si je puis dire. Donc c'est un homme qui a rendu le service à la France d'être beaucoup plus libre et beaucoup plus audacieux que Louis XIV. Mais ça a été une chance de le trouver là, à ce moment-là. Mais par la suite, on a eu d'ailleurs de bons ministres et le début du règne de Louis XV n'était pas mauvais avec le cardinal Fleury.
L'époque exige toujours son serviteur. Quel pourrait être le serviteur de cette époque, celle qui nous agite et pour laquelle nous vivons?
Le cas typique est que le général de Gaulle a été le serviteur exigé par l'époque. Il fallait quelqu'un comme lui, et l'époque a trouvé ce serviteur, cet homme admirable. Parmi les personnes vivantes, je crois que beaucoup de personnes jouent un rôle considérable, mais je crois qu'on ne peut porter un jugement vraiment impartial que sur les carrières qui sont parvenues à leur terme.
Dans la prochaine campagne électorale qui est importante, vous avez choisi votre camp, c'est le camp de la majorité.
Ah, il n'y a pas de doute.
Mais c'est le camp qui vous convient, dans lequel vous êtes bien. S'il y avait eu d'autres perspectives, d'autres orbites, vous les auriez choisies?
Mais je pourrais être bien avec tout le monde sur le plan des relations personnelles ou intellectuelles. Ce qui fixe mon choix, ce n'est pas du tout les sympathies, ni même une idéologie d'ensemble, c'est le programme. Je ne peux pas me trouver bien à appuyer un programme que je trouve mauvais. C'est ça qui est absolument impossible. Vous mettrez mes meilleurs amis à soutenir le programme commun. Je ne le peux pas. Parce que ce programme commun aboutirait nécessairement, je me suis fait un peu de politique, ce n'est pas le rôle de votre émission, je crois, mais dans ma vue,
mais vous êtes
à scléroser complètement l'économie française. Nous rentrerions justement dans la période de Louis XIV, tout s'arrêterait. Que l'on fasse 700 nationalisations ou 3500 ou zéro, ça n'a aucune importance. Il suffit de voir ce qu'on nous propose dans le programme commun. Bloquer tous les prix. Or, quand on a bloqué le prix du croissant, ça fait déjà l'histoire. Bloquer tous les prix, augmenter tous les salaires, interdire tout licenciement. À partir du moment où un entrepreneur, un homme d'affaires, un industriel, un commerçant est obligé d'augmenter tous les salaires et ne peut pas augmenter ses prix et qu'il ne peut licencier personne, il ne peut pas se tirer d'affaires tout seul. Que peut-il faire ? Il se retourne vers l'État et il dit au gouvernement, veuillez me dire ce que je dois faire, ce que je dois vendre, quel prix je dois vendre, ce que je dois fabriquer, parce que moi, je ne peux pas m'en sortir autrement. Donc, toute l'économie est immédiatement sclérosée. Alors ça, je ne suis pas partisan de cette économie. Je désire garder une économie libérale, non pas uniquement pour le plaisir de l'anarchisme libéral, au contraire, une économie libérale pas anarchique, mais parce que seule l'expansion continue, qui exige une certaine liberté, initiative, c'est ça qui est vivifiant, la liberté, la diversité, le pluralisme. Alors cette économie permet de produire, et en produisant beaucoup, on peut mieux distribuer. Comment expliquez-vous qu'actuellement nous pouvons faire l'allocation aux vieillards alors qu'on ne la faisait pas avant la guerre ? C'est parce que nous avons une économie d'expansion et les mesures sociales qu'a prises ce gouvernement et cette majorité, est-ce qu'elles sont si négligeables ? Elles n'auraient pas pu le faire même si elles avaient été mues par un esprit social intense si on avait eu la croissance zéro. Enfin, je ne veux pas appuyer plus longtemps là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que je ne verrai aucun inconvénient à travailler avec des personnes tout à fait variées. J'ai appartenu à des gouvernements avec des socialistes et j'ai soutenu des gouvernements où il y avait des communistes. Ce n'est donc pas une question d'antipathie. Je ne soutiens pas cette voie parce que je suis opposé au programme qu'on nous propose.
Et peut-être...
Donc je me sens bien avec les gens qui proposent les mêmes choses que moi.
Mais peut-être que votre force maintenant, c'est votre solitude politique, parce que vous êtes opérationnel.
C'est une solitude peuplée.
Oui, mais elle est très peuplée.
Si vous voyez mon emploi du temps.
Mais vous êtes un arbitre, peut-être.
Un arbitre.
Vous voudriez être un arbitre.
Oh, mettons que je pourrais être quelquefois un conseiller, un opinant.
Edgar Faure, au commencement de cette conversation, j'ai essayé de vous faire comprendre combien nous avions été touchés par la mort de Lucie Faure. Vous m'avez répondu, et très rapidement, et très bien, et j'ai compris dans votre émotion ce que vous ressentiez. Je voudrais simplement vous dire, mais le plus simplement du monde, combien nous avons pensé à vous à ce moment-là et combien nous y pensons encore.
Je vous remercie.
Merci Edgar Faure.